sit on the edge.
Is your thing chinned all right? Doesn't got a chin and so on. Looks to be more than usual. He said there were some people weren't coming because they weren't wearing masks, you know, because not everyone was wearing masks, so people weren't coming. Which is, for me, is the best reason. There's a guy there not wearing a mask. didn't know this thing would retain what I put when I put a metronome thing to it.
Bienvenue à toi, ici et maintenant, ici dans la salle ou ici devant l'écran. Tu as choisi de vivre un moment pour Dieu, sois-en béni, sois-en encouragé. De multiples mains, visibles et invisibles, ont participé à créer ce moment de vécu. On les remercie, qu'elles en soient bénies aussi. Ici et maintenant, dans ce contexte social et culturel, sanitaire et politique, nous voulons nous rappeler que nous avons un grand Dieu qui garde les choses dans ses mains, qui va jusqu'à connaître le nombre des cheveux sur notre tête. Dieu, créateur de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, Dieu de volonté qui a voulu que je sois, que tu sois. Nous voulons nous rappeler que nous sommes ses enfants et qu'il est celui à qui nous rendons compte et qui nous encourage chaque jour, chaque instant. Et nous voulons nous laisser encourager par sa voix ce matin. Je vais prier. Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, nous voulons nous placer devant toi ce matin, nous ouvrir à toi, à ta parole, à ton message. Que ton esprit aide notre esprit à comprendre, vivre, ancrer en nous quelque chose de toi ce matin. Par le nom de Jésus-Christ, Amen. Et nous voulons lire de le psaume 115, les versets 1 à 16. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles ont un nez, mais ne sentent pas. Elles ont des mains, mais ne touchent pas. Des pieds, mais ne marchent pas. Leur gosier ne produit aucun son. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. L'Éternel se souvient de nous, il bénira. Il bénira la communauté d'Israël. Il bénira la famille d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, petits et grands. L'Éternel vous fera prospérer, vous et vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Nous allons avoir quelques chants qui vont être projetés. David et Jérémie vont nous jouer la musique. Et on vous propose de simplement les fredonner, de les garder pour vous, étant donné les circonstances sanitaires, mais de vous imprégner de ces paroles, de vous y associer pleinement.
L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Plus le Fils se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme. Sans cesse jusqu'à son retour, et mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 yeah.
Le psaume 23, c'est vrai que dans un temps tel qu'on vit actuellement, les psaumes sont une source de bénédiction, d'espoir aussi, parce que le psalmiste avait le droit de dire tout à Dieu, aussi de questionner, de savoir parfois où tu es, Dieu, où es-tu. Et peut-être dans ces temps, on pose la même question parfois. Un autre psaume, le psalmiste, dans un autre psaume, le psalmiste a dit ceci. Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi, mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi dans ton sanctuaire, je te contemple, considérant ta puissance et ta gloire, car ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te bénir tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé.
Comme soupire une pige après l'eau d'un ruisseau. Moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Heureux, je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûler, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs tantôt. Heureux, je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Heureux, je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu.
Merci beaucoup. Bonjour à chacun, chacune. Bonjour chez vous derrière votre écran. J'espère que vous allez bien. Nous sommes heureux de nous retrouver déjà ce matin un peu plus nombreux. Et puis, dès la semaine prochaine, on vous en dira plus en fin de culte. Mais nous aurons le bonheur et la joie de nous retrouver encore plus nombreux à certaines conditions, pas trop contraignantes non plus. Dites-moi un peu, si ce matin je voulais vous parler d'un chef-d'œuvre, à quoi est-ce que vous penseriez d'abord? Quelle est pour vous l'image du chef-d'œuvre? Alors, le Mont Blanc, j'ai entendu la nature, une peinture, laquelle, Irène? Alors, si vous tapez peinture ou tableau plus chef-d'œuvre, vous allez tomber à coup sûr sur la Joconde. Ah, moi, ma préférée, c'est la jeune fille à la perle. Mais la Joconde sourit, enfin voilà. Un chef-d'œuvre. La création. La mer. Ah, vous êtes pas mal nature quand même. Le corps humain, moi je m'étais noté l'œil par exemple, mais le corps humain dans une certaine mesure. Les êtres humains que les hommes aiment, que Dieu aime pareil. Aime pareil. Mais on y est, merci. Une autre idée de chef-d'œuvre, un film, un livre. Ah ouais. Un chef-d'œuvre. Ah ouais. De Gustave Eiffel. Ah ouais. La cinquième de Beethoven. La neuvième de Beethoven. Moi, je m'étais noté là la Passion selon Matthieu de Jean-Sébastien Bach. Notre idée de un livre, un film, chef-d'œuvre pour vous? La Bible, merci. Merci Marie-Thérèse. Nicolas, pardon ? La dogmatique de Karl Barth. Oula ! Ok. Dimanche dernier, lors de son accueil chaleureux, Denise a dit ceci. L'Église, personne ne peut la défaire. Car c'est Dieu qui s'en porte garant par Jésus-Christ et le Saint-Esprit. L'Église, personne ne peut la défaire, elle ne peut être défaite. Quand je pense Église, je pense avant tout à un chef-d'œuvre. Et pas seulement sur le plan architectural. Des églises qui sont de vrais chefs-d'œuvre sur le plan architectural. Mais je pense au chef-d'œuvre de Dieu qu'est l'Église. C'est comme une famille multicolore, formée de gens de toutes conditions, de toutes origines, de tous âges. C'est comme un temple, c'est comme une cathédrale, mais bâtie avec des hommes et des femmes qui, ensemble, sont émerveillés par le salut en Jésus-Christ. Et je vous invite à écouter la lecture d'Éphésiens 2, les versets 11 à 22.
C'est pourquoi souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Jusqu'ici, la parole de Dieu.
Un chef-d'œuvre, l'Église. Un si grand salut, offert à des hommes et des femmes qui ne l'ont pas mérité et à qui Dieu fait la grâce de participer à son projet universel. Un chef-d'œuvre. Cette conviction massive, responsabilisante, elle s'exprime dans la lettre que Paul adresse aux chrétiens d'Éphèse. Il vaut la peine de se rappeler quelques secondes dans quel contexte. L'apôtre Paul n'est pas libre de ses mouvements. Il est en attente d'un jugement en appel. Il se trouve assigné à résidence à Rome, comme nous l'avons vu il y a 15 jours. Il a des soldats autour de lui qui se relaient pour le surveiller. Il peut recevoir des visites et il peut écrire. Il écrit donc à l'église d'Éphèse et aux églises voisines qui sont situées dans ce que nous appelons la Turquie aujourd'hui. À l'époque, la Turquie était simplement une riche province romaine. Une minorité juive était bien présente dans cette riche province romaine. La majorité de la population ne croyait pas à un seul Dieu, mais à une multitude de dieux. Des dieux puissants, mais capricieux. Des dieux ayant chacun une ou l'autre spécialité. La médecine, la chasse, l'amour, la guerre. Et surtout, ils avaient en commun la protection de l'Empire romain. Mais les chrétiens de cette riche province romaine, les chrétiens étaient en dehors de tout ce système-là. Aux yeux du monde, ils formaient alors une secte douteuse. Ils ne bénéficiaient pas de la tolérance qu'on accordait à l'étrange religion des Juifs. Ils se coupaient du monde, les chrétiens. Ils refusaient d'assister au repas en l'honneur des divinités. Ils fuyaient les spectacles sanguinaires et pornographiques. Aux yeux du monde, ils faisaient courir des risques à la société parce qu'ils provoquaient la colère des dieux. Et c'est à ces chrétiens-là, précisément, que Paul écrit. Et il leur écrit pour dépeindre la grandeur du plan de Dieu, qui les sauve du péché, qui fait d'eux un peuple nouveau, une église, un chef-d'œuvre. Eux, si petits, au sein de l'immense civilisation romaine, eux, ils sont aimés de Dieu, destinés à une gloire éternelle. La plupart des membres de ces églises à qui Paul écrit sont donc d'origine païenne. On voit ça aux versets 11 et 12. Ils ne sont pas juifs et les juifs les méprisent en tant qu'incirconcis, qu'impurs, qu'infréquentables, qu'idolâtres et forcément débauchés. Ils n'ont pas de Messie, ils n'ont pas de Sauveur. Ils ne font pas partie du peuple de Dieu. Ils ne connaissent pas les promesses de Dieu. Ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ils sont en dehors de l'Alliance. Et à long terme, ces pauvres païens convertis sont sans espérance. Qu'est-ce qui change donc pour ces premiers chrétiens? C'est à partir du verset 13. Christ a donné sa vie comme un sacrifice qui pardonne les fautes, comme une rançon qui procure la liberté. Il a mis fin au régime de la loi de Moïse en supportant la condamnation qu'exigeait la loi de Moïse. Du coup, à partir de là, juifs et non-juifs sont logés à la même enseigne, à condition d'être unis en Christ. Ils sont pécheurs? Eh bien, Christ est mort pour les pécheurs. Ils sont sous la condamnation de la loi? Eh bien, Christ a subi la condamnation à leur place. La loi n'est plus leur maître. Ils sont prisonniers d'un système religieux qui ne peut pas les sauver. Eh bien, Christ les a libérés pour la liberté. Avant, pour les Juifs, la loi de Moïse imposait une stricte séparation entre le pur et l'impur, entre les jours consacrés à Dieu et les jours ordinaires, entre les aliments purs et les aliments impurs, entre les personnes pures et les personnes impures. L'apôtre Pierre hésitait, par exemple, à entrer chez un Romain, Corneille, parce que même si Corneille s'intéressait à l'évangile du salut, entrer chez lui, ça aurait rendu Pierre impur. Paul, lui, a été arrêté parce qu'on l'accusait d'avoir introduit un grec impur dans le temple de Jérusalem. Je suis conscient en disant ça ce matin que ça nous paraît loin, que ça nous paraît loin. Mais dans ce temple, à Jérusalem, un écriteau disait et dit toujours que si un non-juif va au-delà d'une certaine limite, il sera le seul responsable de sa mise à mort. Et voilà que tout le système tombe, tout le système s'écroule. Grâce à Jésus-Christ, il crée en sa personne une seule et nouvelle humanité, un chef-d'œuvre. Tout séparait les juifs et les non-juifs. Christ a fait d'eux un seul corps. Il a établi la paix. Il les a réconciliés versets 13 à 15. Il les a réconciliés. De temps en temps, il y a eu des guerres entre les Juifs et les Romains. Et au moment où Paul écrit, la plus terrible d'entre ces guerres est pas loin d'arriver, en 70, la chute de Jérusalem. Mais en temps normal, il y avait une sorte de guerre froide, une guerre larvée, une guerre culturelle, un communautarisme exacerbé, une séparation dont les Juifs étaient fiers. Mais en Christ, tout ça c'est fini. C'est la paix en Christ. C'est-à-dire, pour tous ceux, pour toutes celles qui se sont tournées vers lui, qui croient en lui, qui ont lié leur sort au sien, sa mort, c'est leur mort. Sa vie, c'est leur vie. Nous sommes son ouvrage, verset 17. Il nous a refait. Il nous a recréé. Il nous a reconstruit. Il nous a donné son esprit. Nous ne sommes plus les mêmes. Notre vie, c'est Christ. Et notre statut a complètement changé. Pour les Juifs convertis, entendre ça, lire ça, c'est l'aboutissement d'une longue histoire. Mais pour les non-Juifs convertis, les païens dont nous sommes, c'est l'intégration dans le peuple de Dieu. Un chef-d'œuvre. Ce ne sont plus des étrangers. Ce ne sont plus des touristes, ce ne sont plus des sans-papiers, ce ne sont plus des demandeurs d'asile, ce ne sont plus des résidents temporaires, ce sont des citoyens à part entière. Les différences culturelles entre chrétiens d'origine juive et les autres ont provoqué alors de vives tensions dans les églises. Vous pouvez lire la lettre de Paul aux Galates, vous en aurez un aperçu de ces vives tensions. Aujourd'hui, grâce à l'enseignement des apôtres, ces tensions entre juifs convertis et païens, elles n'existent pratiquement plus, hormis dans certains groupements juifs messianiques. De temps en temps, on vient nous titiller sur la viande cachère ou le respect du sabbat, mais c'est rare et c'est tant mieux. Pourtant, le risque de créer des clans, le risque de créer des groupes d'influence ou même des églises séparées, ce risque-là, il existe toujours. Il n'y a pas si longtemps, en Afrique du Sud, il était impossible de trouver des noirs et des blancs dans la même église. Et c'est parfois le cas aujourd'hui encore aux États-Unis, par exemple. Et c'est parfois le cas aujourd'hui. Aussi, dans certaines grandes villes en France ou en Suisse, non pas pour des raisons théologiques, mais simplement pour des questions de culture. La musique peut séparer les gens. Le style de prière peut séparer des gens. Le type de leadership, j'aime pas ce mot, de service pastoral, peut séparer des gens. Une église pour les jeunes, une église pour les vieux, c'est parfois cela aussi. Le proverbe qui dit « qui se ressemble s'assemble », c'est quelque chose de naturel. Et moi je trouve formidable que nos jeunes se retrouvent, qu'ils aient du plaisir à discuter ensemble, à s'asseoir ensemble. Des églises en langue arabe, ou des cultes en espagnol, ça peut répondre à de vrais besoins. Le problème, c'est quand il n'y a pas de passerelle. Ou quand on privilégie une catégorie de chrétiens contre les autres, en voulant ne voir qu'une seule tête, en ne voulant privilégier qu'un seul type d'expression. Parfois, sous prétexte d'affirmer que nous sommes tous un en Christ, les églises fonctionnent comme si nous étions tous identiques en Christ. Tous blancs, tous hommes, tous évangéliques, tous pareils. Que faire là? J'ai parlé de passerelle. Ce qui veut dire, me semble-t-il, que nous avons besoin, et peut-être aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin d'espace pour parler, pour nous exprimer, pour écouter, pour comprendre, pour mûrir les choses. Nous avons besoin de nous connaître les uns les autres. Peut-être pouvons-nous nous inviter pour un café, pour un apéro, plus si entente. Nous avons besoin d'honorer et de valoriser nos différences. Elles sont une force. Le maillage passe par des cordages qui se croisent. C'est exigeant, mais c'est constructif. Bien tissés ensemble, nous sommes forts. Et à Mérin, cette diversité, elle fait partie de notre ADN. Elle reste un défi. Mais croyez-moi, j'en ai visité des églises. Cette diversité, elle est un immense privilège. Notre responsabilité, c'est de tout faire pour la sauvegarder. Et puis nous avons besoin d'espace aussi, pour que des spécificités s'expriment. Des groupes de maisons, on a des progrès à faire dans ce domaine, des groupes de maisons. Le fil d'argent, le CTT, le KT, des groupes de travail, le conseil, tous des lieux où des spécificités peuvent s'exprimer. Avec des passerelles, une reconnaissance mutuelle, des manifestations communes, la principale étant pour nous le culte, et dans une autre dimension, le colloque, ou encore la rencontre de prière mensuelle. Comment peut-on créer des passerelles entre les jeunes et les moins jeunes? Quelqu'un de mon âge, devant un bloc de jeunes, il est impressionné. Il est intimidé. Un jeune, devant quelqu'un de mon âge, qui ne sait même pas ce qu'est TikTok, eh ben, il pense qu'il a affaire à un dinosaure. Et pourtant, en Christ, nous sommes appelés à nous aimer, à nous valoriser, à bosser ensemble. Nous faisons partie d'un seul et même peuple, dit l'apôtre Paul. Il faut donc des passerelles interculturelles, il faut des passerelles intergénérationnelles. Si nous disons que nous sommes un, il faut que ça se voie. C'est bien beau de dire que nous sommes désormais citoyens du royaume de Dieu. Mais quel est notre rôle dans le chef-d'œuvre? Paul l'a déjà dit au verset 10 et nous l'avons vu il y a 15 jours lors de la bénédiction. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparé à l'avance afin que nous les accomplissions. Nous sommes là pour des œuvres bonnes que nous devons accomplir. Autrement dit, Dieu nous conduira dans toutes sortes d'actions pour le bien d'autrui, afin que nous puissions mettre en pratique sa loi parfaite qui se résume dans cette parole, dit Jésus, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dans le travail, dans la famille, en salle de cours, dans ton entourage, il y a forcément un projet de Dieu pour toi. Forcément. Encourager une personne âgée, accueillir un étranger, donner à manger à quelqu'un qui a faim, discuter avec quelqu'un qui se sent seul, faire découvrir à d'autres l'art, la musique, le sport, le travail sur bois, cela fait partie de notre vie dans la création de Dieu. Et cela continue à faire partie de notre action en tant que nouvelle créature. Et il y a plus ici encore. Nous construisons une cathédrale. nous construisons une cathédrale. Au verset 21, l'apôtre Paul parle d'un temple saint. Il connaissait le temple de Jérusalem. Il ne connaissait pas encore nos cathédrales à nous. Mais c'est le même genre d'idée. Quelque chose de grandiose, construit à la gloire de Dieu. Le fondement, dit Paul, eh bien, ce sont les apôtres qui étaient les premiers à annoncer l'évangile et qui, par leur enseignement, ont posé les bases. La première pierre, eh bien, c'est Jésus-Christ, évidemment, parce que tout part à lui et il supporte tout. Les pierres, les poutres, les câbles électriques, les carreaux, c'est nous tous et toutes. À une condition, dit Paul, être bien intégré dans l'ensemble. Un plafond suspendu, on ne le met pas par terre. Un robinet, on ne le met pas au plafond. Une porte, elle doit ouvrir sur un espace. Chacun s'insère dans un plan d'ensemble. Nous sommes tous et toutes différents les uns des autres. Nous sommes tous et toutes utiles. Nous sommes tous et toutes belles et beaux quand nous entrons dans le plan de Dieu. Et il y a une différence majeure d'avec les matériaux qu'on achète chez Hornbach ou Ikea. Nous pouvons nous évoluer. Nos capacités peuvent être développées. On peut changer de place à condition que la construction avance. Et le résultat, c'est une construction que Dieu vient habiter par son esprit. Un chef-d'œuvre. Construire l'Église, c'est plus fort que constituer un parti politique. C'est plus fort que de former une équipe qui va faire comme Servette et se hisser en Coupe d'Europe. C'est créer une famille, dit Paul, une communauté où Dieu habite. Sur la terre, cette communauté, cette famille, on sait, elle n'est pas parfaite. L'électricité disjoncte parfois. Il peut y avoir des fissures dans le placo. Les carreaux ne sont pas toujours bien alignés. Il y a une fuite dans le toit. Il n'empêche que c'est la maison de Dieu, la cathédrale de Dieu. Et notre rôle à nous, c'est de réparer ce qui doit l'être et de continuer à construire. Votre place à vous n'est pas au milieu d'un tas de parpaings cassés qui attendraient sur le parking à côté. Votre place, elle est dedans, intégrée à l'édifice. Je conclus. Un apôtre Paul prisonnier. Des églises jeunes, fragiles, c'est compliqué tout ça. Des chrétiens minoritaires, complètement décalés par rapport à la civilisation ambiante. Et pourtant, tous citoyens d'un royaume bien plus fort que Rome, tous réconciliés les uns avec les autres en Christ, tous intégrés dans le plus beau projet de construction qui soit. Une cathédrale, ça se chérit. Une cathédrale, ça se construit. Un chef-d'œuvre d'équipe est en cours de construction. J'en bénis le Seigneur. Je me réjouis de bosser avec mes frères et sœurs. Et j'enfile mon bleu de travail. Amen.
Philippe a suggéré qu'on regarde le chant « Une seule église ». Et,
On était censé avoir un autre membre de la famille avec nous ce matin, mais il est malade, malheureusement. Et c'est elle qui allait chanter ce chant. Voilà. Le texte est vraiment super, donc je vous invite à voilà, le suivre. Si de temps à autre je rate une entrée, ne vous inquiétez pas. Moi, je vais l'entendre avant vous. Et donc, un chant écrit par David Prigent, que j'ai eu le privilège de côtoyer l'été dernier. Voilà. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes pécheurs. C'est vrai qu'on dit souvent que le terrain devant la croix est plat pour tout le monde. On est là grâce à ce que le Seigneur a fait pour nous et non pas grâce à notre arrière-plan ou notre histoire à nous, même si nous est précieuse et on est précieux dans le Seigneur chacun, mais on est là grâce à ce que lui l'a fait pour nous. Issus du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous n'avons eu la chance qu'il nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Un nouveau jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'Esprit. Et nous n'aurons qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons les médisances. Que l'œuvre du diable soit mise en lumière, que le Père fasse tomber les barrières. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous s'est offert. Nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Les élus de tous les temps, avec les anges et nous ici présents, passeront l'éternité ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant, vivant dans l'unité, on verra que nous sommes ses disciples, à l'amour qui nous unira. Nous n'aurons qu'un seul but, élever Jésus, et que son salut soit répondu. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église.
Le prochain chant est un moment où nous pouvons nous imprégner de cette croix de Christ sur la croix, de son sacrifice pour nous. Nous ne pouvons pas prendre la scène, mais nous pouvons nous rappeler sa signification, nous pouvons nous rappeler dans nos cœurs qu'il est mort pour nous, pour nous justifier auprès de Dieu, nous laver du péché, et nous réjouir de la résurrection qui nous associe avec la résurrection par après, de quand nous passerons de l'autre côté.
Montre-moi l'aurore de ce jour si noir, Christ en chemin vers le calvaire, jugé par des pécheurs, flagellé, battu. Se voile et la terre tressaille, le Créateur courbe la tête, le voile déchiré, les morts se réveillent, il crie, c'est accompli, ô puissant. Je suis pardonné.
voulons prier. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, merci pour cette grâce du sacrifice de Christ sur la croix, de nous avoir offert ce moyen de salut si facile, si gratuit. Merci pour sa signification pour nous. Merci d'être tes enfants, de pouvoir accéder auprès de toi, de parler à toi, d'être ensemble ici et maintenant, d'être ensemble ici présent, pour être une église, un édifice qui te soit, qui te rende gloire, qui soit un vecteur auprès de notre cité, auprès de nos concitoyens, pour te refléter, pour que d'autres puissent te connaître, d'autres puissent venir à toi, d'autres puissent être sauvés pour l'éternité, que tu nous conduises à chaque instant. Et merci pour ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes une église, et l'église a des activités dans la semaine. C'est les choses que nous voyons maintenant. Philippe ?
Bon, je suis un peu embêté. Mon téléphone est mort, j'avais toutes les annonces dessus. Je délocalise un peu de ma mémoire sur un nuage, alors c'est un peu nébuleux aujourd'hui. Alors, je sais qu'on devait parler de dimanche prochain, c'est le culte de la reprise. Je sais qu'il y a une histoire de masque. Bon, j'ai vu qu'il y en a qui en portaient, d'autres pas. Peut-être Philippe, tu peux un peu m'aider parce que je ne me souviens plus trop de ce qu'on a discuté en plus jeudi.
Ouais. Je ne vais pas être un très bon téléphone à tes côtés, mais je vais essayer. Mais qu'est-ce que tu voudrais savoir en fait?
On devra tous porter un masque, parce que bon, dans les magasins, on porte des masques, c'est un peu la généralité, et puis c'est pas pratique ces trucs. Quoi.
Non, c'est pas très rigolo le masque.
Je disais, on s'entend pas très bien quand on parle avec un masque, c'est pas pratique.
Non, c'est pas pratique.
Parce que en plus celui qui parle. Mieux, non ouais. Bah, sûrement, je sais pas, il y a des avantages en fait.
Ah, il y a des avantages. Il y a l'avantage principal qu'on se protège les uns les autres. Si on a une saleté, pas forcément le coronavirus, mais même avec le corona, si on porte un masque, on est à quasi 100% de protection. Mais il y a un autre avantage. C'est quelque chose qu'on aime bien faire ici, puis qu'on n'a pas pu faire ce matin, puis qu'on aurait tellement voulu faire avec vous, David et Jérémie. On pourra chanter. À partir de dimanche prochain, nous étendons notre capacité d'accueil. On passe de 65, 70 chaises à 100 avec le masque et la possibilité de chanter depuis dimanche prochain. Et puis, au fur et à mesure des semaines, pour t'aider à être au point sur tes infos, eh ben, on va évoluer ce que le canton de Genève nous invite à faire. Et on va continuer à s'aligner. Ça nous semble important de travailler avec nos autorités. Donc à partir de dimanche prochain, tout simple, 100 personnes, le masque, le chant, la traçabilité à l'entrée, parce que ça c'est quand même important, et puis on reprend progressivement nos activités d'église. La première que nous reprenons, et je suis super content, outre le culte, c'est mardi soir, 20h15, la réunion de prière. Ici, avec les distances de sécurité, si vraiment on est beaucoup, on portera le masque, mais si on peut maintenir 2 mètres entre nous, on la fera autrement, ici ou en bas, si on est peu, rencontre de prière. Ce sera l'occasion de dire merci à Dieu pour sa protection et puis de lui remettre cette nouvelle saison. J'ai répondu à tes questions,
Jean. Oui, alors, juste, si tout à coup, on est plus que 100.
Ah, mince.
Ça se passe comment?
Ça serait top, quoi. Si on est plus que 100...
Bien, ouais.
Ce serait bien, et on a un plan B, où on a une solution de repli. Si on était plus que 100, nous aurons une retransmission du culte en direct à la chapelle, dans la mesure des places disponibles, c'est-à-dire une quarantaine. On s'est dit que si nous devions être 140, 150, ça correspondrait à peu près à ce que nous étions en février dernier. Donc on a cette possibilité de repli sur la chapelle, les premiers arrivés sont les premiers servis ici, donc je vous encourage à venir dès 9h30, heure à laquelle l'accueil est garanti, et puis si vous arrivez un peu en retard ou que c'est déjà plein, il y aura cette solution de repli sur la chapelle. Les enfants seront pris en charge, tu vas nous en parler, parce qu'il y a un truc, si ma mémoire est bonne, il y a un truc super qui se prépare.
Oui, oui, je crois qu'il y a même une vidéo qui doit être présentée.
C'est le top. Si... Et ouais. La garderie reprend aussi dimanche prochain. Donc on essaie de reprendre un rythme un peu normal, plus nombreux, avec cette petite mesure de protection qui nous semble importante, puisqu'en plus, elle est généralisée dans tous les lieux clos.
Merci. On arrive à passer la vidéo ? Donc pour les enfants, il y aura une vraie prise en charge, donc c'est un petit magazine, ce n'est pas une parution tous les mois, hein. C'est simplement que ça annonce le programme à venir, donc comme ça l'Église saura exactement les sujets qui vont être traités, et puis chaque dimanche ce qui sera traité dans le club des enfants, et puis ça permet aussi d'avoir un support papier qui est une interaction entre l'Église et puis les enfants. On l'a appelé le potager, puisque le potager c'est un endroit où on plante des petites graines. Et puis il y a des plantes qui poussent, mais tout le monde peut planter des petites graines. Et puis ces graines, elles portent du fruit. Donc c'est vraiment quelque chose d'interactif où tant les enfants que les adultes, s'ils veulent laisser un petit message aux enfants, peuvent participer à ce potager. Oui, juste. Ça faisait partie des éléments de mémoire que j'avais plus. Dimanche 6 septembre, on a prévu un petit forum à la fin du culte. Comme les cultes sont plus courts, c'est très agréable, on a du temps après. C'est un temps d'échange pour deux sujets. Donc, comme le GRRP avait envoyé un courrier pour vous annoncer la proposition de la candidature de Célina comme personne pour le poste à 50%, c'était d'échanger si vous aviez des questions, s'il y avait... besoin d'échanger sur le sujet. Et puis un deuxième sujet, c'est toute cette partie d'absence de culte qu'on a eue, alors plutôt à distance, et de pouvoir aussi vous exprimer ce que vous avez ressenti, mais surtout des éléments constructifs pour la suite, peut-être des visions d'avenir ou des choses qui sont venues pendant cette période. C'était une période propice à la réflexion, donc ça permettra d'échanger. C'est de prendre une heure, hein, c'est pas non plus de s'étendre trop, mais de prendre une heure, voilà. Et puis, le vendredi 2 octobre, on a prévu le colloque qui permettra à la fois l'élection pour le poste à 50%, et puis de pouvoir aussi traiter d'autres sujets qui étaient restés peut-être un peu en suspens. Voilà.
Voilà, je voulais aussi juste vous dire que la framboise reprend lundi, donc la garderie pour la semaine. Et c'était l'occasion aussi pour moi de vous inviter, donc de vous inscrire pour l'Assemblée Générale de cette framboise. C'est vrai que nous demandons aux membres de l'EM, étant donné que c'est une émanation de l'Église évangélique de Mérin, cette framboise, donc de venir vous inscrire. Nous avons quelques membres qui ont démissionné ou qui sont partis du fait des distances. Donc c'est bien volontiers que vous pouvez venir vers moi pour vous inscrire en tant que membre de la framboise, de l'association. Et rassurez-vous, il n'y a pas une soirée par semaine, mais une soirée par année pour l'Assemblée Générale. Alors venez vers moi si ça vous dit pour vous inscrire. Merci.
Un RDT se termine ce soir à 18h. Donc chacun est accueilli chaleureusement. Nous sommes une église qui a un bâtiment des frais. Vous pouvez penser aux dons en sortant par la porte de secours. Vous avez un twin, vous avez le bulletin de versement ou le panier. À la sortie, pensez à garder l'espace sanitaire en gardant les distances, portant le masque, et puis dans les discussions aussi à l'extérieur, de garder les distances pour préserver la non-clusterisation de notre église. Donc, pour l'instant, on est super contents. Et je vous propose de vous lever pour la bénédiction. Que la grâce de Dieu, la résurrection de Jésus-Christ, l'Esprit Saint dans nos vies nous accompagne chaque instant de chaque journée de cette semaine. Soyez bénis du Dieu trois fois saint. Allez en paix. Que Dieu vous bénisse.
Thank you, Mr.